بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Mes frères, mes mères et sœurs, donc inshallah, on va poursuivre la traduction et explication des quelques versets du Coran Sharif. Et alhamdulillah, à la grâce d'Allah, tabaraka wa ta'ala, nous sommes occupés à l'étude du 26e Sipara qu'on a débuté hier et qui aujourd'hui, Inch'Allah, on passera également brièvement dessus, et une partie du 27e Juz qui donc comprendra les sourates Al-Fath, donc dans le 26e Sipara, Surat Qaf, Surat Tur et Surat Al-Najm également. Donc on essaiera de prendre, comme d'habitude, quelques versets avec quelques explications. Et d'abord, dans notre première partie, celle des aqaïd, des croyances, et des masaïd également. Dans cette surat al-fath, la victoire éclatante. Allah tabarak wa ta'ala nous dit dans les premiers versets de cette surat, Bismillahirrahmanirrahim, avec le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le tout clément. Inna fatahna laka fatham mubina. En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante, c'est-à-dire nous avons accordé au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Afin que Allah te pardonne tes péchés passés et futurs, qu'il parachève sur toi son bienfait et te guide sur une voie droite, et qu'Allah te donne un puissant secours. Alors bien évidemment, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas de péché. Donc le sens qu'Allah tabarak wa ta'ala veut nous faire comprendre ici, il nous dit que selon un des savants, la meilleure, on va dire, explication selon Hadrat Mufti Sab est la suivante, que le retard, on va dire, le délai qu'il y a eu dans la victoire, les pensées qui ont pu se créer dans le cœur et dans l'esprit de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah a pardonné également ces pensées-là. Parce que bien évidemment, nous savons que les Anbiya alayhi salat wa salam ne commettent pas de péché. Donc, dans ces premiers versets, Allah tabarak wa ta'ala nous parle de la victoire de Hudaybiyah. Et ensuite, brièvement, pour comprendre un peu la suite de ces versets-là, un des sahaba radiyallahu anhum ajma'in, qu'Allah les agrée, ils étaient donc contents lorsqu'ils ont entendu cette nouvelle de la victoire. Mais ils ont dit au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que Allah t'a annoncé ma yaf'alu bika, c'est-à-dire qu'Allah va t'aider, Allah va te donner la victoire. Mais pour nous, c'est-à-dire pour nous les sahaba radiyallahu anhum, quel sort Allah tabarak wa ta'ala va nous réserver? Et c'est là que la suite des versets ont été révélés. لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا. Allah ta'ala fera entrer les croyants et les croyantes dans les paradis sous lesquels coulent les ruisseaux et où ils demeureront éternellement. Et Allah tabarak wa ta'ala effacera leur méfait, et donc ça c'est un énorme succès auprès d'Allah tabarak wa ta'ala. Là où on veut en venir ici, c'est dans notre aqaïd de la croyance, de la véracité des paroles d'Allah tabarak wa ta'ala. Bien évidemment, chaque musulman croit que chacune des paroles, chaque lettre, chaque nukta, chaque point qu'il y a dans le Coran Sharif, c'est une vérité, c'est-à-dire ça provient d'Allah tabarak wa ta'ala et il n'y a aucun doute. Maintenant, pour placer ces ayats, ces versets dans son contexte, qu'est-ce qui s'est passé lors donc de ce traité de Hudaybiyah? Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il avait vu en rêve que lui, il allait faire donc le tawaf, il allait accomplir la umrah, alors qu'ils étaient donc à Madina Munawara et qu'il y avait des affrontements entre les non-musulmans et les musulmans. C'est pour ça qu'en l'an 6 de l'Hégire, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, avec une délégation selon certaines traditions de 1300 sahaba ou alors 1400 ou alors 1500, Hafez ibn Kathir rahmatullahi alayhi dit wal awsatu, c'est-à-dire le nombre du milieu, 1400 c'est préférable. Donc environ 1400 sahaba radiyallahu anhum, ils sont allés avec le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam afin d'accomplir la umrah, tout en sachant que les non-musulmans étaient en guerre avec les musulmans. Et arrivé donc à Hudaybiyah, qui est le nom d'un puits, qu'est-ce qui s'est passé? La chamelle du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle s'est brusquement arrêtée. Qaswa, la chamelle du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, s'est brusquement arrêtée. Et là, les sahaba radiyallahu anhum, ils ont essayé de faire que la chamelle reprenne son trajet, elle se remette debout et qu'elle avance. Mais le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit en ce sens que habasaha habisul fil, c'est-à-dire le même être, le même pouvoir qui a empêché les éléphants d'Abraha d'entrer à Makkah Mukarrama, ce même être, c'est-à-dire Allah tabaraka wa ta'ala, a fait que Machamel s'est arrêté également. Donc le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a compris que ce n'était pas le moment d'aller faire la Umrah. Donc le rêve n'allait pas se réaliser dans cette année. Et les sahaba radiallahu anhum, donc ils étaient un peu étonnés par rapport à ça. Ensuite, les non-musulmans de Makkah Mukarrama, lorsqu'ils sont venus, ils ne voulaient pas laisser entrer le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et les sahaba radiallahu anhum étaient très mécontents par rapport à cela. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les non-musulmans, ils se sont dit, si on va empêcher le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam d'entrer à Makkah, alors les autres tribus arabes, ils vont nous critiquer. Donc on va dire que pour cette année, ils n'ont pas l'autorisation, mais ils pourront revenir l'année prochaine. Et c'est là qu'ils ont donc ratifié le traité de Hudaybiyah, dans lequel il y avait beaucoup de clauses qui étaient contre les musulmans. Par exemple, lorsqu'ils ont commencé à écrire ce traité, alors les musulmans, ils ont écrit « Bismillahirrahmanirrahim ». Et là, un des non-musulmans qui n'était pas encore sahaba à l'époque, certains d'entre eux, alhamdoulilah, ils sont devenus, radiyallahu anhum ajma'in, ils ont dit non, n'écrivez pas « Bismillahirrahmanirrahim » puisque « Arrahmanirrahim » nous on ne connaît pas c'est qui. Écrivez « Bismikallahumma ». Bismikallahumma. Les sahaba ont dit, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit non, ce n'est pas grave, on va accepter, on va écrire Bismikallahumma. Ensuite, les sahaba radiallahu anhum également, à la fin de ce traité, donc ils ont signé que ça c'est le pacte qui a été fait donc en telle personne et Muhammadur Rasulullah, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Là également, ils ont dit non, nous on n'accepte pas que tu es le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc écrit Muhammad ibn Abdullah, c'est-à-dire Muhammad le fils de Hadith Abdullah, le père de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Alors les sahaba radhiyallahu anhum étaient extrêmement en colère, ils n'ont pas pu, on va dire, supporter cela. Et finalement c'est le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même, selon certaines traditions, bien qu'il n'arrivait pas à écrire, il a écrit donc Muhammad ibn Abdullah, il a accepté donc de ne pas mettre ce titre. Donc ça c'est par rapport à ça. Ensuite, dans ce traité, il était également stipulé que les sahaba radiallahu anhum ne pourront pas accomplir la Umra durant cette année, l'année 6 de l'Hijra. Alors forcément, ils ont quitté leur maison dans cet objectif, dans cette optique, sachant qu'ils n'étaient pas venus à Makkah Mukarrama depuis quelques années. Donc, vous pouvez comprendre ce qu'ils ont ressenti. Mais le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté ça également. Une autre des clauses qui était mentionnée et stipulée dans ce traité, c'était si une des personnes de Makkah Mukarrama acceptait l'islam et se réfugiait auprès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à Madina Munawwara, alors les musulmans s'engagent à retourner, à renvoyer cette personne à Makkah, c'est-à-dire ils ne la donneront pas protection. Alors les sahaba ont dit, comment ça se fait, quelqu'un qui était dans l'obscurité de l'infidélité du polythéisme, s'il quitte et il devient musulman, on doit les renvoyer vers vous? Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a accepté également ça. En revanche, si un musulman va à Makkah Mukarrama, alors les non-musulmans n'ont pas le devoir de le renvoyer. Donc c'était, on va dire, un peu à sens unique, à l'encontre des musulmans. Malgré tout, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté cela. Et les sahaba radiallahu anhum, ils étaient extrêmement touchés. Hadith Omar radiallahu ta'ala anhum, il est venu voir le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a demandé en ce sens, « Ya Rasulallah, est-ce que tu n'es pas un prophète véridique? Est-ce qu'Allah tabarak wa ta'ala ne t'a pas envoyé? Notre religion n'est-elle pas correcte, n'est-elle pas réelle ?» Et selon certaines traditions, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas répondu. Il a attendu durant le voyage, il n'a pas répondu. Ensuite, il est parti voir Hadith Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu. Et Hadith Abu Bakr radiallahu anhu, il a eu la même attitude que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et finalement, au retour, Allah tabarak wa ta'ala, il a révélé ses versets. C'est-à-dire que ce traité de Hudaybiyah, même si en apparence vous avez fait des concessions, même si en apparence ces clauses vont à votre encontre, malgré tout, Allah a déclaré et a qualifié ce traité de Hudaybiyah de quoi? De Fatham Mubin. Allah t'a accordé une victoire éclatante. Alors, tout ça pour montrer quoi? On a dit que notre croyance sur les versets du Coran Sharif, même si en apparence, on a fait des concessions, le prophète d'Allah, sallam, il avait dans son intelligence, dans l'aide qu'Allah tabarak wa ta'ala, lui avait accordée, il avait donc compris cela. Allah a déclaré ce traité de Hudaybiyah une grande victoire. Et réellement, bien évidemment, comme on a dit, les paroles d'Allah tabarak wa ta'ala, il s'est avéré que durant cette période-là, c'est-à-dire depuis l'an 6 de l'Hijra, le nombre de personnes qui ont accepté l'islam, il était aussi grand que le nombre de musulmans qu'il y avait en l'an 6 de l'Hégire. C'est-à-dire durant cette période de Hudaybiyah jusqu'à l'époque de la conquête de Makkah Mukarrama, alors le nombre de personnes qui ont accepté l'islam a grandement augmenté. C'est-à-dire que ça a été une cause, l'arrêt donc de ce conflit entre musulmans et non-musulmans, ça a été une cause de propagation de l'islam. Les non-musulmans, ils pouvaient donc visiter les musulmans, ils ont pu voir, ils ont pu comprendre mieux l'islam, et même s'il y a eu donc des concessions, même si le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté beaucoup de choses, malgré tout, Allah, tabaraka wa ta'ala, il a fait donc de ce traité-là une grande victoire. C'est pour ça que Abdullah bin Mas'ud, radiyallahu anhu, il dit pour nous, la grande victoire, ce n'était pas la conquête de Makkah, mais c'était la victoire de Hudaybiyah. Donc voilà, par rapport à ça, pour dire quoi? Que toutes les paroles qu'Allah tabarak wa ta'ala nous dit dans le Coran Sharif, comme on a vu dans cet exemple-là, même si en apparence on ne comprend pas, mais il y a la promesse d'Allah, alors sans doute, la promesse d'Allah, elle va se vérifier. Allah nous dit qu'Allah va diminuer Allah va diminuer les bienfaits, les profits de l'intérêt. Yamhaqu Allahu ar-riba, et Allah va faire augmenter la charité. Ça veut dire quoi? Lorsque vous allez prendre l'intérêt, Allah il va diminuer vos biens. Et lorsque vous allez donner la sadaqa, Allah il va augmenter vos biens. Alors là également, en apparence, lorsqu'on fait un emprunt à intérêt, on a l'impression que notre richesse augmente. Et lorsqu'on donne la sadaqa, on a l'impression que notre richesse diminue. Et auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, ce n'est pas le cas. Et encore une fois, Allah ta'ala, il nous permet parce que ça, c'est une question de conviction. Notre yaqeen sur Allah tabaraka wa ta'ala. Dans un hadith sharif, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit en ce sens, n'arrêtez pas de dépenser car Allah ta'ala arrêtera de vous donner. Bien sûr, chacun selon nos possibilités, même si c'est un petit montant, mais donnez et faisons confiance à Allah tabaraka wa ta'ala, plus particulièrement dans ce mois béni de Ramadan, dans lequel le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était encore plus généreux que dans d'autres mois. Donc voilà pour une première croyance. Deuxièmement, on va parler quelque peu de la sourate An-Najm. Al-Najm dans le 27e Sipara, une très très belle sourate, alhamdoulilah, comme toutes les autres d'ailleurs, et dans lequel Allah tabarak wa ta'ala, il nous parle plus précisément du Mi'raj, de l'ascension. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, vous savez, il est monté donc jusqu'au 7e ciel, il a visité le paradis et l'enfer. Et Allah tabarak wa ta'ala nous parle de cet incident. On va juste traduire, inshallah, quelques passages et on va essayer d'expliquer, inshallah, avec l'aide d'Allah tabarak wa ta'ala après. Allah dit Allamahu shadidul quwa. Que lui a enseigné, qui lui a enseigné? La personne qui a la force prodigieuse. Alors, qui est cette personne? On y viendra, inshallah, dans le commentaire dans un instant. Dhumir, Allah décrit donc cette personne qui a enseigné donc le wahi, le Coran Sharif, à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Doué de sagacité. C'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle. Thumma wa huwa bil ufuqil a'la, alors qu'il se trouvait à l'horizon supérieur. Thumma dana fatadalla, puis il se rapprocha et descendit encore plus bas. Fakana qaba qawsayn aw adna, et fut à deux portées d'arc ou plus près encore. Fa awha ila 'abdihi ma awha, ma kadhaba al fu'adu ma ra'a, afatumarunahu 'ala ma yara, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Et il l'a pourtant vu lors d'une autre descente. عند سدرة المنتهى près du سدرة المنتهى عندها جنة المأوى, et auprès du سدرة المنتهى il y a le jardin donc de Ma'wa. Alors par rapport au commentaire de ces versets, les commentateurs du Coran Sharif, ils ont expliqué ces versets de deux sortes. Premièrement, ça peut se référer à Allah tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire allamahu shadidul quwa, qui a enseigné le Coran à Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a la force prodigieuse, c'est-à-dire Allah tabarak wa ta'ala. Et toutes les autres qualités qui viennent après, ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى, doué de sagacité, il s'est rapproché, etc., se réfèrent à Allah tabarak wa ta'ala. Et il y a certains sahaba, radiyallahu anhum, qui sont de cet avis. Néanmoins, Hazrat Qazi Sana'ullah Panipati, rahmatullahi alayh, également un grand savant, qui a écrit un tafsir, tafsir al-Mazhari, il est également de cet avis qu'ici on parle d'Allah tabarak wa ta'ala. C'est donc comme on a dit, Hazrat Aisha, radiyallahu anha, et Hazrat Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhum. Néanmoins, beaucoup d'autres sahaba radiyallahu anhum, ils sont d'avis que ici on parle de Hazrat Jibrail alayhi salat wa salam, Hazrat Aisha radiallahu anha, Ibn Mas'ud, Hazrat Abu Huraira, Hazrat Abu Dhar al-Ghifari radiallahu anhum, ils sont d'avis que ici Allah tabarak wa ta'ala il parle de Hazrat Jibrail alayhi salat wa salam. Et donc ces qualités, shadidul quwa, celui qui a une force, dhu mirratin fastawa, tout ça on parle ici de Hazrat Jibrail alayhi salat wa salam. Et une grande majorité donc de mufassirin alayhim wa rahma également, Hafiz ibn Kathir rahmatullahi alayhi, il est de cet avis. Donc maintenant on a ces deux tafasis, deux possibilités. Quand Allah tabarak wa ta'ala dit وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, Allah ta'ala nous dit il l'a pourtant vu lors d'une autre descente, c'est-à-dire soit le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah tabarak wa ta'ala, on y viendra inshallah, ou alors soit le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a vu Hazrat Jibrail alayhi salatu wa sallam. Et là les commentateurs du Coran Sharif nous disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Hazrat Jibrail alayhi salatu wa sallam sous sa forme normale uniquement à deux reprises. Premièrement, c'était lors de la lorsque le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait, il venait de recevoir la révélation, il a vu que Hazrat Jibrail alayhi salatu wa sallam était entre le ciel et la terre, et donc il était impressionné par cette vision là et il était également apeuré. Donc ça c'est la première fois. Et la deuxième fois où le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a vu Hazrat Jibrail alayhi salatu wa sallam donc sous sa forme avec toutes ses ailes, c'est quand? C'est lors de ce mi'raj là. Donc ici si on va prendre ce commentaire là, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a vu une seconde fois Hazrat Jibrail alayhi salatu wa sallam ou ça inda sidratil muntaha, près du sidratil muntaha. Alors le sidratil muntaha ça veut dire la limite. Pourquoi est-ce qu'on appelle la limite? Parce qu'on dit que les actions des êtres humains qui viennent de la terre et qui montent au ciel, ils arrivent, les actions arrivent jusqu'à cet endroit. Et les anges également, leur limite, on va dire, c'est le muntaha. Ils ne peuvent pas aller plus haut que le muntaha, qui se trouve donc au septième ciel. Indaha jannatul ma'wa, et le paradis également, il se trouve à cet endroit-là. Dans un hadith sharif rapporté par l'imam muslim, rahmatullahi alayh, il est dit que ce sidratul muntaha, cet arbre-là, le lotus, dans certaines traductions on trouve ça, cet arbre-là, il se trouve au sixième ciel. Alors comment on fait? On va joindre, on va dire, ces deux informations. C'est que la racine de cet arbre commence au sixième ciel et il monte donc jusqu'au septième ciel avec sa splendeur et les feuilles. Donc ça c'est une explication également qui est donnée. Donc ici on a vu que si on prend le sens de Hazrat Jibrail alayhi salatu wa salam, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a vu deux fois sous sa forme originelle. Donc ça c'est une chose. Deuxièmement, si on va prendre le sens d'Allah tabarak wa ta'ala, c'est-à-dire le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah. Alors ça également c'est un mas'ala, une règle qui concerne nos croyances. Est-ce que lors du mi'raj, lors de l'ascension, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah tabarak wa ta'ala ou pas? Mufti Shafi sahib rahmatullahi alayhi, il nous explique que entre les sahaba radiallahu anhum, les compagnons du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, entre les tabi'in également, il y a divergence d'opinion. Chacun, ils ont leur preuve. C'est un hadith sharif qui montre que oui, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a véritablement vu Allah tabarak wa ta'ala. D'autres hadith sharif qui montrent que non. Donc Mufti Shafi sahib rahmatullahi alayhi, il dit que selon Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala, le mieux étant donné que entre les sahaba radiallahu anhum même, entre les compagnons du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il y avait divergence, le mieux c'est ce qu'on appelle on fait tawakkuf. C'est-à-dire on va pas prendre de décision. On va pas dire que yaqini, oui, sans doute le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah ta'ala ou bien non, il n'a pas vu. Quand entre les sahaba radiallahu anhum eux-mêmes il y a divergence, alors nous-mêmes on va dire la voie aslam ou ahwat. C'est là où il y a plus de précautions. Bien évidemment, lorsqu'on est dans les darulum, etc., alors on présente les preuves, quels sont les ahadith sharif qui prouvent que oui, quels sont les ahadith sharif qui prouvent que non, comment est-ce qu'on peut expliquer ça. Mais inshallah, ce n'est pas le but. Et ce n'est pas, comme Mufti Shafi sahib rahmatullah alayhi nous dit, ce n'est pas quelque chose où on dispose d'une preuve qat'i, c'est-à-dire fermement, on peut affirmer donc ça ou pas, et ce n'est pas quelque chose qui a trait à notre pratique. Donc il dit, c'est pour ça, Mufti Shafi Sahib Rahmatullah lui-même, il n'a pas mentionné tout cela. Wallahu alam. Ensuite, par rapport à ce qui a été mentionné ici, Allah Tabarak wa Ta'ala nous parle du paradis, et Allah Ta'ala nous parle de l'enfer. Et une des questions qu'on peut se poser, c'est où se trouve le paradis et où se trouve l'enfer. Alors notre croyance, c'est qu'actuellement le paradis existe, Allah Ta'ala l'a déjà créé, et l'enfer également existe. Dans un autre verset du Coran Sharif, Allah Ta'ala nous dit يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِمْ تَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ. Lorsqu'on dira à l'enfer, Allah Ta'ala demandera à l'enfer, lorsque les gens ils seront placés, Allah nous protège, Inch'Allah, est-ce que nous dirons à l'enfer, es-tu rempli? وتقول et l'enfer dira هل من مزيد, ça veut dire il y a tellement de place encore, oh Allah, comme si encore beaucoup de place pour les gens. Et dans un hadith sharif, il est dit en ce sens que Allah Ta'ala, il donnera la capacité à l'enfer et au paradis de parler, et l'enfer dira oh Allah, en moi, c'est-à-dire dans l'enfer, il n'y a que les mutakabbirin, les gens qui ont fait preuve d'orgueil, qui ont réfuté et refusé les paroles d'Allah Ta'ala. Et le paradis dira oh Allah, avec moi, en moi, il y a les gens faibles, les gens qui donc n'avaient pas de force. Et Allah Ta'ala dira en ce sens au paradis et à l'enfer, ô paradis, toi tu es l'endroit où je place ma clémence, et l'enfer, toi tu es l'endroit où je montre, on va dire, ma colère et ma punition. Donc Allah Ta'ala, il nous protège par rapport à cela. Donc le paradis et l'enfer, le paradis, ce qui est sûr par rapport au hadith sharif et ce qui est au ayat du Coran sharif, il se trouve au-dessus du septième ciel et en dessous du arche d'Allah. Le paradis se trouve au-dessus du septième ciel et en dessous du arche d'Allah. Maintenant, concernant l'enfer, où est-ce qu'il se trouve? Mufti Shafi Sahib Rahmatullah Ali, il dit que dans le Coran et dans le hadith sharif, on n'a pas de preuves formelles, on va dire. Mais on trouve certaines indications. Par exemple, dans la sourate At-Tur, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le verset 6, « Wal-bahri al-masjur ». Allah, il prend le qassam, il jure par la mer qui est portée à ébullition. Alors les savants nous expliquent que lorsque le qiyamat il apparaîtra, la mer deviendra en feu. Donc c'est pour ça qu'ils disent que, ils disent en ce sens, que l'enfer se trouve sous les sept terres, si vous voulez. Et Mufti Shafi Sahib Rahmatullahi Alayh, il nous dit que les scientifiques, les géophysiciens plus précisément, ils ont essayé de creuser sous la terre. Et selon les informations que Mufti Shafi Sahib Rahmatullah Ali nous donne, ils ont essayé de creuser jusqu'à 6 miles, aller au-dessous. Et au-dessous de ça, ils n'ont pas pu aller. Alors, en faisant quelques petites recherches, on a trouvé également, alhamdoulilah, quelques informations. Et ils disent que donc, la croûte, ils appellent ça la croûte terrestre. Et il y a eu une expérience, il y a 40 ans de cela, en URSS. Ils ont essayé donc d'aller et de creuser la terre. Et ils ont voulu creuser la terre jusqu'à environ 15 km, c'est-à-dire 15 km au-dessous de la terre. Mais arrivé à 12 km et des poussières, on va dire, qu'est-ce qui s'est passé? La température, elle était beaucoup trop élevée, c'est-à-dire elle atteignait environ 180 degrés. Donc c'est pour ça qu'ils ont été obligés d'arrêter de creuser. Et Mufti Shafi Sahib Rahmatullah a dit, il est tout à fait possible qu'au-dessous de ça, il y ait effectivement, on va dire, Allah tabaraka wa ta'ala a donc placé donc peut-être l'enfer. Donc ça fait partie des possibilités. De la même manière, 40 ans en URSS, ils ont appelé ce projet Kola Super Deep Borehole. Hole, ça veut dire un trou. L'objectif était de descendre jusqu'à 15 km sous nos pieds pour découvrir de quoi est constituée la couche séparant le manteau supérieur de la croûte terrestre. Malheureusement, le projet doit avorter à 12,262 km en 1989. Les températures sont trop élevées pour poursuivre le forage, alors que la température devait être de l'ordre de 100 degrés Celsius. D'après les estimations, elle atteint plus de 180 degrés. Ils ont fait une autre expérience, un groupe allemand, à Windischenbach, je sais pas, dans le Haut-Palatinat, et elle parviendra jusqu'à 9,1 km en 1994. Donc voilà, il y a une expédition japonaise également. Ils espéraient en 2007 atteindre 7 km sous la croûte océanique d'ici fin 2007. Wallahu alam. Tout ça, c'est pour montrer quoi? Que personne ne sait réellement ce qu'il y a dessous. Et seul Allah tabaraka wa ta'ala sait. Et comme on a dit, il n'y a pas de preuve formelle sur cela. Maintenant, concernant les qualités à avoir, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous parle de la salat de tahajjud. Il nous dit que les sahaba radiyallahu anhum kanu qalilan min al-layli ma yahja'un. C'est-à-dire, selon une explication, les sahaba radiyallahu anhum dormaient peu la nuit. Ils dormaient peu la nuit. Alors, vous savez qu'on est faible, et Mufti Shafi Sahib rahmatullahi alayhi, alhamdulillah, il a mentionné une parole qui va nous donner un peu de courage. Et il nous dit que un des grands savants, un des grands saints de l'islam, lorsqu'il a comparé ses actions avec les actions des gens du paradis, il a dit que véritablement, mes actions n'arrivent pas jusqu'au degré des gens qui sont dans le paradis. Ensuite, j'ai comparé mes actions avec les actions des gens de l'enfer. Et là également, j'ai vu qu'alhamdoulilah, ces gens, ils n'acceptaient pas le Coran, ils n'acceptaient pas les croyances, la foi en Allah tabaraka wa ta'ala. Et alhamdoulilah, mes actions ne sont pas non plus du degré des gens de l'enfer. Donc finalement, Hazrat Hassan Basri rahimahullah ta'ala, il rapporte ça de Hazrat Ahnaf bin Qais rahimahullah ta'ala. Il dit: finalement, j'ai trouvé que ma situation, elle correspond plus à ce groupe qu'Allah ta'ala il décrit en ces termes: wa akharu alladhina khalatu 'amalan salihan wa akhara sayyi'an. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont mélangé les bonnes et les mauvaises actions. Donc il dit que, alhamdoulilah, je ne suis pas non plus parmi les gens qui ont les qualités des gens du paradis, ni parmi les gens qui ont les qualités de l'enfer, mais je suis entre les deux en quelque sorte. Et qu'est-ce qu'on voulait dire par rapport à la salat de tahajjud? Ils disent en ce sens que Abdurrahman bin Zayd bin Aslam, rahimahullahu ta'ala, qui faisait partie des Banu Tamim, une fois, quelqu'un a dit à mon père que Abu Usama, je ne trouve pas en moi les qualités des muttaqin, les qualités des gens pieux. C'est-à-dire, Allah dit que ces gens, ils dorment peu la nuit. Kanu qalilan min al-layl ma yahja'un. Plutôt, nous, c'est plutôt qalilan min al-layl ma naqoumoun. C'est-à-dire, on se lève très peu la nuit, on dort. Et là, il nous a donné, alhamdulillah, une réponse qui nous rassure et qui nous console un peu. Il dit: touba liman raqada idha na'asa. C'est-à-dire, malgré tout, ne vous en faites pas. Bonne nouvelle à ceux qui dorment lorsqu'ils ont sommeil, lorsqu'ils ont fatigué, mais lorsqu'ils se réveillent, ils craignent Allah. Donc au moins, même si la nuit, on n'arrive pas à se réveiller, mais lorsqu'on est éveillé, c'est-à-dire qu'eux aussi, inshallah, ils vont avoir donc les bonnes nouvelles de la part d'Allah tabarak wa ta'ala. De la même manière, une grande action qui est mentionné dans ces versets du Coran Sharif, c'est quoi? C'est de demander pardon à l'heure du sihri. Allah Ta'ala, il dit: wa bil ashari hum yastaghfirun, mustaghfirin bil ashar. C'est-à-dire, dans la dernière partie, le dernier sixième donc de la nuit, de demander pardon. Et les mufassirin alayhim rahman nous disent que ici Allah Ta'ala il parle des sahaba radhiyallahu anhum, des gens qui toute la nuit ils adoraient Allah, ou alors une grande partie de la nuit, et malgré tout, lorsqu'arrivait le moment de sihri, parce qu'ils ont compris la grandeur d'Allah et ils ont compris leur insignifiance, ils savaient que leur action n'avait pas de valeur, c'est pour ça qu'ils demandaient pardon à Allah tabarak wa ta'ala. Donc ça également, ce sont des grandes qualités qu'Allah tabarak wa ta'ala mentionne. Allah ta'ala nous parle également des vertus du tasbih. Wa min al-layli fasabbihhu adbar as-sujud. Et ça, dans plusieurs hadiths sharifs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous incite, il dit que la personne, dans le Sahih al-Bukhari et Muslim, Hazrat Abu Huraira radiallahu anhu, il dit que la personne qui le matin et le soir va lire 100 fois subhanallah, alors 100 fois subhanallah le matin et le soir, le jour du qiyamah, personne d'autre n'arrivera avec une action meilleure que cette personne, sauf quelqu'un qui aura lu également ces 100 fois subhanallah. De la même manière, il est dit que la personne qui lira 100 fois subhanallah wa bihamdihi, alors ses péchés, ils seront effacés, même s'ils sont nombreux comme l'écume de la mer. Et ce dua-là, subhanallah wa bihamdihi, vous savez que c'est un très grand tasbih. Dans le dernier hadith de Bukhari Sharif, on dit en ce sens que ce sont deux paroles qui sont légères sur la langue, faciles à prononcer, aimées par Ar-Rahman, par Allah tabarak wa ta'ala, et lourdes sur la balance. Et même dans certaines traditions, il est dit que c'est par la cause de ces paroles-là qu'Allah Ta'ala il fait parvenir le rizq à travers toute la création, wallahu alam. Donc c'est une bonne action également. Allah Tabarak wa Ta'ala il nous permet, inshallah, de comprendre et de pratiquer là-dessus. Donc voilà en bref quelques qualités, quelques aqaïd, quelques croyances qui sont liées à ça. Pour les péchés, inshallah, on fera ça la prochaine fois. Allah nous donne la compréhension et il nous pardonne. Walhamdulillahi rabbil alamin.